de manière générale et exploratoire. Mm-hmm. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les logs de connexion sont enregistrés pendant un an. Mm-hmm. Donc ça, c'est antidémocratique. Parce que ça, c'est atteinte à la présomption d'innocence. L'anonymat, le fait qu'on, par défaut, on peut être anonyme, ça, si on nous l'enlève, c'est totalitaire. Donc oui, je dis, je répète, qu'aujourd'hui, il y a des lois, notamment avec l'application informatique, qui oblige les opérateurs à enregistrer toutes les données de connexion, et notamment les données de déplacement, géolocalisation du téléphone GSM, ce que vous visitez comme site, etc. Tout ça, c'est enregistré. Et ça, j'estime que oui, à partir du moment où il n'y a pas l'enquête sur ma gueule, on n'a pas à surveiller a priori. Voilà. Si un jour, on a des soupçons sur moi, on surveillera a posteriori. Mais le faire a priori avec un an d'historique, ça, c'est la Chine. Voilà. Donc je dis à la personne qui me répond, oui, je dis, ben, excuse-moi, mais non. Ce qui est totalitaire, ben, ça peut être aussi dans les petits éléments comme ça. Quoi.
On demande juste quel métier vous faites dans la vie, sur le chat.
Je suis journaliste et... ouais, c'est ça, journaliste, essayiste. Je travaille en ce moment dans l'audiovisuel, mais je suis pas du tout intermittent du spectacle, mais c'est mon métier de formation et de cœur, je vais dire. Même si la presse aujourd'hui cède elle aussi aux sirènes.
C'est l'autocensure.
De quoi ?
La presse.
La presse autocensure, oui, c'est ça. Oui, et puis maintenant avec les dirigeants qu'elle a, la presse...
C'est pas qu'elle s'auto-censure, c'est que...
C'est que par ses gènes même, elle est plus là pour dire les choses, quoi.
Par contre, oui, une réaction, donc justement, parce que, à la réaction, ouais. C'était que justement, s'il n'y a pas d'enquête sur nous, et ben tout le monde s'en fout de nos traces. Mais en même temps, ça revient à ce que disait Eric Schmitt, quelque ouais. part.
Oui, et puis voilà. Visiblement, il n'a pas d'enquête sur lui, donc oui, il s'en fout là, pas de ses traces. Bien.
Par contre, oui, il y avait une réaction toujours de Lionel. Qui disait que en fait effectivement c'est tout à fait légitime jusqu'à présent donc oui vous dites on est surveillé donc dans la rue dans les réseaux sociaux etc. on manque de vie privée et donc le problème principal qui pourrait correspondre à cette question c'est le fait que c'était que Facebook est une société privée. Mm-hmm. Et ben quelle solution vous préconiseriez pour qu'on puisse accéder à un service tel que Facebook qui pour certaines personnes est devenu pratique comme on a eu
quasiment
des SMS, les emails etc. mais qui ne soit pas une menace en fait.
Non, enfin indispensable, je suis un peu
non, j'ai pas dit que c'était indispensable, j'ai dit que c'était très pratique.
Ça peut devenir indispensable pour certaines personnes dans certaines situations. Bah,
c'est-à-dire que en particulier au collège ou au lycée où je suis actuellement, enfin au lycée, pas au collège, je sais que c'est on est quand même très mal vu. Bon, après il y a toujours le côté j'assume d'être belle. Mais n'empêche, c'est toujours très mal vu de... Disons de pas avoir Facebook.
Tu peux très bien t'appeler Tartemplon sur Facebook et voilà, il y a que ceux qui te connaissent qui savent que c'est toi Tartemplon. Pourquoi accepter qu'on te...
Parce qu'on peut aussi recouper son prénom avec les amis.
Non, mais ceux qui recoupent, voilà. Soit ils veulent vraiment du mal et de toute façon ils arriveront. Soit ils veulent te faire une blague et de toute façon ils arriveront. Donc,
donc en fait, c'est plus que c'est pas que tout soit inaccessible, mais que tout ne soit pas aussi facilement accessible.
Ta question, est-ce qu'il faut nationaliser Facebook ? C'est ça ta vraie question en fait ? Est-ce que moi je suis un trotskiste ?
Non, c'est moi qui avais fait le rapprochement en fait vis-à-vis de Facebook, mais c'était plutôt qu'il disait que vous apportiez pas de solution face à ces problèmes. On n'est pas obligé d'apporter une solution pour avant de soulever un problème.
Non, quand on est contre, il faut tout de suite apporter sur un plateau le.
Non, cela dit, c'est toujours intéressant effectivement d'avoir votre avis sur la solution.
La solution, elle est technique, elle existe, sauf que Google et Facebook ne voulons pas le faire. Ce serait d'anonymiser toutes les transactions entre le serveur et le client et laisser en clair tout ce qui est entre client et client.
Et voilà. pourquoi est-ce qu'on ferait pas on légiférerait pas sur ce genre de choses en obligeant les sites à faire ça et en disant si vous le respectez
pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une volonté du gouvernement.
Pour moi, c'est aussi dur de légiférer sur cette question-là que de nationaliser ces entreprises. Voilà.
Oui, mais en même temps, on peut dire si vous respectez pas, on bloque vos sites.
Qui va prendre la décision de légiférer dessus ?
Non mais voilà, c'est la
quand Google, voilà. Monsieur Schmitt dit voilà cette fameuse phrase machin, n'ayez pas peur, on vous surveillera pas. Monsieur Schmitt, Monsieur Google, en fait, ils savent très bien que en Europe, notamment, ils sont hors la loi. Google ne respecte pas la loi européenne. Google déclare je ne respecte pas la loi européenne. Donc tu peux voter toute la loi que tu veux.
Ils sont fous.
Pour obliger Facebook à anonymiser les données et pour rien récolter sur ta gueule, de toute façon, ils ne le respecteront pas. Donc aujourd'hui, Google, effectivement, il considère que les lois européennes sont trop disparates, que chaque pays à des durées de conservation qui sont différentes, et donc, ils n'ont pas à s'y conformer. Et donc, ils disent, entendez-vous entre vous, et nous, on prend la position qui nous satisfait le plus. Voilà.
Oui, mais là, du coup, ça y a atteinte à la neutralité du net, du coup.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire que si on oblige...
les enfants, je suis invité, mais
oui,
personne ne peut l'avoir.
Oui, effectivement, mais on a apporté timidement personne du coquillage, des pêches, des verres qui ont été apportés.
Personne peut même chercher un truc vraiment frais, quoi.
Un truc vraiment frais, bah si, il y a des trucs en haut, mais en même temps, il y a tout un stock en haut, quoi.
Je fais grève, hein, je parle plus, là.
Vous voulez quoi ?
Une bouteille d'eau fraîche.
Une bouteille d'eau fraîche, je vais chercher ça. Tu fais du fric ?
Un sujet dont on parle beaucoup, c'est la surveillance du conjoint. C'est-à-dire que.
Ouais, de la conjointe.
Ou de la conjointe.
La ceinture de chasteté.
Voilà, la ceinture de chasteté, mais électronique, tu vois. C'est-à-dire
quoi,
que.
L'ancienne marche très bien.
Globalement, on voit de plus en plus fleurir sur Internet des appareils qui permettent que sa moitié reste bien fidèle, n'est-ce pas ? J'avais.
Génial, ça c'est classe, ça c'est des services.
Et voilà.
Ceinture de chasteté.
Le conjoint, ouais.
Je disais aussi, ouais, donc on voit de plus en plus, par exemple, d'appareils. Par exemple, donc j'avais réussi à relever un GSM espion qui permet d'écouter à distance ta meuf, ça c'est pas mal. Un récupérateur de messages effacés, classique. Ou encore des objets avec caméra et micro intégré, genre un stylo, des bagues.
Mais est-ce que c'est pas illégal ça, tout simplement?
Alors c'est illégal, c'est interdit en France.
C'est interdit d'en faire usage, mais c'est pas interdit de les vendre.
Voilà, non. C'est je crois que c'est interdit de les vendre et de les importer en France.
C'est un peu comme les thunes.
C'est très con.
T'as pas le droit de t'en servir, c'est les trucs pour
mettre. Ouais,
mais
qui sont en vente à la fin.
Tu peux les acheter.
Avec juste une petite affiche devant pour te prévenir.
Oui, alors vous pouvez l'acheter.
Mais vous pouvez l'utiliser.
Vous en servez pas.
C'est bizarre.
Est-ce qu'on peut penser que ce genre de solutions ne sont qu'une preuve que la confiance a pris un sacré coup depuis quelques années, ou simplement ce qui change, c'est qu'avant on voulait le faire, mais on pouvait pas le faire. Maintenant, on veut le faire et on peut le faire.
Bah, avant, ceux qui voulaient le faire se payaient un détective.
C'était pas aussi facile.
Oui, mais c'est clair. Finalement, l'envie, le besoin de savoir ce que fait son conjoint, et il reste le même, quoi. Je veux dire, la morale là-dessus, Internet, c'est pas Internet qui va changer la morale. Les gens, ils sont plus ou moins moraux, plus ou moins attachés à des valeurs. Effectivement, bah, si aujourd'hui on peut offrir un stylo qui espionne quelqu'un,
si c'est un peu le cadeau
pour le faire, bah voilà, la technologie, elle suit le truc, elle suit le mouvement.
Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas des produits si ça se vend pas. Si ça se vend pas, effectivement.
Mais c'est pas que pour les histoires d'agents secrets, c'est clair. C'est pas que pour les histoires d'espionnage industriel. Ça peut être effectivement pour. Surveiller ta nounou, t'as des doutes sur ta nounou.
Ou de la curiosité, ou un délire de geek.
Curiosité, ouais, mais là, bien sûr,
il y a ça. Ça marche aussi. Si oui, mais dans ce cas-là, ça serait une caméra espion que tu mettras dans la salle.
Donc en fait, à la limite, on peut partir du postulat que la technologie n'a servi, au final, qu'à assouvir les désirs les moins, entre guillemets, moraux des personnes. On peut dire ça comme ça, en voyant ce genre d'appareil, au final.
Ouais.
En 2005, Nicolas Sarkozy, qui était alors ministre de l'Intérieur, appelait.
Faut pas dire Nicolas Sarkozy, il s'étouffe.
Ah oui. Excuse-moi. Donc Saint Nicolas. Donc Saint Nicolas, alors
ministre. Tu vas croire être au boulot.
donc notre ami le nain, alors ministre de l'Intérieur.
On va se prendre un procès.
Des problèmes de...
Bon, ça nous fera de la pub.
C'est vrai. Des gros problèmes.
Ouais, mais on cherche le procès depuis ce matin.
Donc, en gros, notre cher président appelait de ses vieux un dépistage.
Appelé de ses vieux.
Oui, appelé de son électorat alors. Appelé de ses vieux un dépistage d'enfants virtuellement délinquants via le prélèvement d'ADN. En gros, ce qu'il disait, c'est que l'ADN permet de déterminer si un enfant peut être délinquant quand il sera plus grand ou pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prélèvement d'ADN chez chaque enfant pour voir s'il est délinquant.
Welcome to Gattaca.
Tout simplement.
Alors, on a l'impression, et ça rejoint le thème de la vidéosurveillance, on a l'impression que désormais, on n'attend pas qu'un délit soit fait pour le condamner et que n'importe qui est un suspect potentiel.
Minority Report.
Alors,
en fait, on va faire une liste de films.
Alors, je me demandais, est-ce que, premièrement, c'est pas contraire à la Constitution, mais on peut dire aussi que la surveillance, en particulier la vidéosurveillance, ne fait que trouver les flagrants délits.
Mais le président Sarkozy est le multirécidiviste attitré d'atteinte à la vie privée, et donc lui, tu peux être sûr que dans ses propositions, des choses qu'il a réussi à faire voter, il y a énormément de choses qui sont contraires à la Constitution, mais lui, il s'en fout complètement de la Constitution. Franchement, ça fait longtemps qu'il a... Ce qui se passe en ce moment avec les Roms, les expulsions collectives, excuse-moi, mais ça, c'est dans tous les textes sur la migration, c'est des choses qui sont interdites, quoi, qui peuvent pas se faire comme ça. Donc, Tu me dis qui. Oui, le président, quelque part, oui, ce qu'il veut, c'est être réélu et asseoir une domination. Et donc, forcément, des fois, il dépasse la borne. Et si en face, les juges disent rien, et si on ne fait pas un obstacle institutionnel ou juridique, il continue, il y va, il fonce dans le tas, quoi. Donc, oui, ça ne m'étonne pas du tout, effectivement. Mais là, on touche plus au créationnisme, on touche plus à côté religieux, un peu mystique de Sarkozy, qui donc qui a besoin d'être élu par des gens qui croient en Dieu, qui croient en l'absence du Big Bang, tout ça. Donc le fait d'être sûr qu'il y a des gènes qui déterminent le fait que tu es gay, que tu seras délinquant ou que tu chies rouge, pour lui ça le fait triper, ça. Parce que pour lui ce serait tellement génial, quoi.
Ah ben surtout qu'avec un peu de chance, dans pas longtemps, il se trouvera du sang bleu. Mais ouais, ça aiderait.
Non mais la question c'est est-ce qu'on peut arguer que la surveillance ne fait que trouver les flagrants délits, parce que globalement c'est vrai que surveiller ça fait pas plaisir à tout le monde, mais en même temps si c'est pour trouver des vols de vélo, on peut pas dire que c'est on peut pas dire qu'il y a une présomption de culpabilité puisqu'on ne fait que trouver.
Mais là, si, vu qu'on t'a filmé avant sans t'avoir demandé, et que si tu peux dire certes je vais pas dans les zones qui sont surveillées, mais tu risques de manquer une grande partie du patrimoine.
Ouais.
Alors tu disais quoi? Tu disais
ça ne sert que
à trouver les flagrants délits.
Oui, encore, parce qu'il y a pour moi les délits qui ont besoin de flagrants délits pour être prouvés, c'est quand même des clopinettes, quoi. Je veux dire, ça peut être un crime, mais les crimes généralement ils sont pas faits devant les caméras. Ce que je veux dire, c'est que il y a quand même des délits et des crimes qui dans leur processus, dans leur mode opératoire, seront jamais découverts, quoi. Dire, tout ce qui se passe
pas les délits d'initié.
Par exemple, en termes financiers, c'est l'impunité totale.
Et puis
en
plus, ça paye bien, et caméra ou pas, ça change pas.
Caméra ou pas, ça change pas, et c'est les mêmes qui s'en foutent plein les
titres. C'est pas comme si on mettait un chat dans une poubelle, par exemple.
Ah ouais, ça j'avoue que justement, c'est
vraiment. À quoi servent les caméras de surveillance, hein, quoi
c'est ça.
À alimenter ces genres de conneries. Et les journaux télévisés, parce que même France 3, des fois, ils le font. Mais à 23h. Ah, en Turquie, quelqu'un a échappé à l'écrasement d'un train. Hop, et puis on le voit. Et grâce à une caméra de surveillance qui a filmé la scène. Ouais, super. Donc ça ne sert des fois qu'à ça, à alimenter des journaux télévisés. Débile.
Non, et puis c'est un peu indécent, quand même. Parce qu'en soi, mettre un chat dans une poubelle n'est pas illégal. Et puis, je comprends pas la vague d'indignation sur Internet. Bon, c'est pas très bien. C'est pas
si,
bien.
Non, mais Internet, c'est le pays des chats. Je sais pas si t'as remarqué le nombre de lolcats que tu peux trouver sur YouTube.
Voilà, il y a des lois sur le traitement cruel des animaux. Et alors, tranquille, la nana, elle est mal, là. En Angleterre, en plus, mais elle est
en
très
plus,
mal.
D'autant plus en Angleterre, effectivement.
Non, mais si elle a fait, c'est un acte de cruauté. Bon, elle peut se prendre une amende, elle n'aurait pas en prison. Mais déjà, elle peut déménager, quoi.
Surtout que Fortune a quand même retrouvé son adresse en moins de 2 comme on pouvait s'y attendre.
Et ça justement, normalement ils auraient pas dû.
Fortune. Alors Fortune c'est un forum très très connu sur le net qui en gros.
Je ne connais pas, mais bon.
Tu connais pas Fortune?
De réputation.
Ouais, de réputation. En fait, Fortune est en gros un genre de forum totalement anonyme sur le net, qui est bon, il y a le meilleur et le pire.
Il y a vachement plus de pire.
Ouais, c'est vrai, il y a souvent le pire. Mais par exemple, c'est de là qu'est parti tous les buzz, etc. Type Rickrolled, type lolcat, etc.
Ouais.
Donc le principe c'est que c'est totalement anonyme et en fait 4chan est donc un forum très connu avec plein de gens et ils ont une faculté qui est très intéressante, on va dire, qui est de pouvoir retrouver une personne sur une vidéo en très peu de temps. C'est-à-dire il y avait eu un moment une vidéo qui a été postée sur 4chan où en gros tu voyais un gamin de 11 ans en train de faire des choses horribles à ses chats, vraiment ignobles. Et en gros, 4chan a retrouvé, alors qu'on ne voyait pas le gamin du type, on voyait juste un bout de sa chambre, ils ont réussi à retrouver son adresse. Et
Ça, c'est via la OSIP.
Non, ils ont réussi à retrouver sa vraie adresse.
Ouais.
Alors, aussi, il y avait une petite fille qui avait mis des vidéos où en gros elle faisait I love you, I fuck you. Elle était aussi très jeune, on lui a retrouvé son adresse et ils n'arrêtaient pas de lui envoyer des pizzas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
C'est super intelligent.
Et donc voilà. Et
c'est magnifique.
Et donc en gros c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé pour la fille.
Et tu trouves ça glorieux en plus?
Bah je trouve pas ça spécialement.
C'est inquiétant. En fait. Bah je sais pas, mais je trouve ça relativement inquiétant. C'est-à-dire que là c'est ce que je disais justement, où t'as pas le droit à l'erreur. C'est non seulement déjà d'habitude les gens peuvent ne pas être très tendres avec toi, mais alors là c'est à la moindre incartade tu te fais sniper en fait. Hein. C'est
Non, c'est pas la moindre incartade.
C'est un peu comme si on équipait une caméra de surveillance d'un petit fusil.
Mais non, mais c'est comme les buzz, c'est-à-dire que ça prend ou ça prend pas. C'est une question de mayonnaise, c'est-à-dire que si tu fais. Mais
t'as vraiment pas de chance si ça prend. Hein, ça,
voilà, c'est ça, c'est-à-dire que.
Si ça prend, tu t'en prends. Voilà, c'est un peu le. Mais, voilà, c'est là, et c'est là que je serai tout à fait justement pour rejoindre la thèse de protéger la vie privée à tout prix. Voilà.
Et Vanessa demande si Quaco c'est là parce que ça lui plairait. Si Quaco c'est vraiment là en plus.
Qu'est-ce qu'elle veut dire Vanessa? On dit on veut connaître la vie privée des autres, mais pas la nôtre.
C'est ça. Enfin, ouais, je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'elle aimerait.
On veut connaître la vie privée des gens, c'est le côté.
Mais on veut pas que.
La gala et machin, mais je veux pas me retrouver dedans, quoi.
Voilà, c'est-à-dire, c'est un peu une. C'est un
Vanessa,
peu. C'est un peu
voyant. Arrêtez de confondre la vie privée au sens sérieux, comme on fait aujourd'hui, et de parler à chaque fois des magazines à la con.
Non, non, on veut parler vraiment de la vie privée des amis. Privée, hein.
Non, mais la vie privée des
amis. Proches.
Oui, c'est ça, ou même c'est ça. Des potins, les trucs de concierge.
Oui, oui, mais quand on dit on achète gala, donc les gens, ça veut dire qu'ils aiment bien connaître la vie privée des autres.
Oui, mais je pense que c'est un parallèle rapide pour dire que quand on va sur Facebook et qu'on voit que machin est avec est en train de sortir avec truc ou que machin est redevenu célibataire et que la fille se dit chouette, c'est le côté Facebook est le nouveau gala en fait que les gens lisent. Sauf que cette fois-ci, je sais pas si c'est plus rassurant, si c'est plus pervers, si c'est toujours est-il que les gens sont moins rodés à être peopleisés, on va dire au sein de leur groupe. Mais voilà quoi, les gens maintenant lisent ce qui se passe pour leurs amis au lieu de leur demander, et ce qui fait que des fois certaines personnes se gourdent de boutons ou gèrent mal les autorisations qui sont il faudrait avoir une thèse en gestion de serveur etc au niveau des autorisations, parce que même gérer les autorisations sur Linux c'est plus simple que gérer les autorisations sur Facebook. J'ai toujours rien compris.
Donc, oui, mais ça c'est fait exprès que les autorisations soient mal faites.
J'ai tout bloqué dans le doute. Donc, je crois qu'il n'y a que moi qui peux voir mon profil. Mais donc, ça ne sert à rien. Mais bon, bref, toujours est-il, le truc, c'est que ce que disait Vanessa, c'est que on aime bien voir la vie des autres, que ce soit notre famille, notre groupe, notre tribu, j'ai envie de dire, parce qu'on va dire qu'on fonctionne par tribu un peu sur Internet. On peut faire partie de plusieurs tribus en même temps, c'est pas gênant. Et donc, mais que par contre, on veut pas que forcément la tribu soit au courant de tout, même si nous on va être au courant du moins de faits et gestes de tous les membres de notre tribu. Mmh. Voilà, donc c'était ça.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question sur la paranoïa, c'est ça?
Ouais. Paranoïa en l'occurrence.
Est-ce que ceux qui défendent la vie privée, donc jusqu'à faire des actes un peu politiques, est-ce qu'ils sont pas paranoïaques? Et moi j'ai plutôt envie de dire le contraire. Est-ce que les paranoïaques ce seraient pas ceux qui sont persuadés
qu'il faut tout vérifier tout le temps,
qu'il faut tout contrôler, que chez chacun d'entre nous il y a un terroriste potentiel? Est-ce que la paranoïa c'est pas ça finalement?
Ouais, mais on peut pas dire que non plus tout le monde est tout blanc et tout le monde est tout noir. Je pense pas que Lionel soit spécialement un grand fan de Eric Ciotti.
Mais je suis désolé, c'est pareil. Pour moi, un gouvernement, un État, un politique qui veut passer des lois encore plus liberticides pour essayer d'espérer d'arrêter un mec dans 5, 10 ou 15 ans, pour moi c'est ça aussi. C'est de croire, d'avoir une vision de l'être humain et de son prochain comme assez tordu. Voilà.
La question, c'est de la paranoïa. La question qui vient à l'esprit, c'est que tout à l'heure, vous disiez, si on installe les caméras de vidéosurveillance, c'est pour qu'on tue cette décence ordinaire. En même temps, tuer la décence ordinaire, à long terme, voire à très long terme, c'est pas spécialement c'est pas spécialement meilleur que de supprimer la grande délinquance. Ce que je veux dire par là, c'est que si la majorité des masses va peut-être tomber dans le moule du gouvernement, il n'empêche qu'une petite minorité, mais très parlante, va continuer, elle, à faire ce qu'elle veut.
Je vais sortir un argument démagogique, mais en fait, la plus grande criminalité, elle est dans un endroit très surveillé, ça s'appelle Wall Street.
Et ça s'appelle la cave du Captain Web.
J'étais obligé de la placer, celle-là. Mais...
Par exemple, ouais.
Non, mais je sais pas, le côté paranoïaque, moi je revendique aussi de l'être un petit peu, et je pense qu'on doit tous l'être un peu. Et c'est une hygiène de l'être, parce que sinon, on est.
Si on se méfie jamais de rien, on est candide.
Et puis voilà. Mais on peut pas non plus se méfier de tout.
Tout le monde est gentil, quoi, non. Ouais. Mais en revanche, faut pas perdre de vue que ceux qui justement s'amusent à nous taxer de paranoïaques, genre Hortefeux et compagnie, sont les premiers à avoir un comportement complètement parano.
En l'occurrence, c'est plutôt bien pensant, hein, plutôt que paranoïaque.
Comment ça?
Non, mais par rapport à son interview dans Le Monde il y a quelques jours. Ouais.
Mais c'est vrai que voir un peu le mal partout pour être élu ou pour avoir les faveurs du président, ça relève non pas de la paranoïa, mais disons que d'un parcours un peu paranoïaque, quoi, d'une vision, d'un sens politique.
Est-ce qu'on est en train de se diriger vers une société plus transparente, entre guillemets? Parce que de transparence, on en entend beaucoup, mais dans deux discours différents.
Oui, on en entend beaucoup, on nous en demande beaucoup, et on n'en voit pas trop.
Est-ce qu'il y a 100 ans, on était moins transparent qu'aujourd'hui?
Je sais pas, mais entre Zuckerberg, le patron de Facebook, qui croit à une société plus ouverte et plus transparente, et Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui considère aussi qu'il faudrait une société transparente, mais là en l'occurrence ce serait révéler les dossiers honteux, n'est-ce pas, des gouvernements.
C'est plutôt évidemment côté Assange, parce que quand on parle de transparence, généralement, la pensée dominante veut que ce soit celle de l'individu. Il doit accepter qu'aujourd'hui on sache plus de choses sur lui, lui-même révèle plus de choses autour dans son cercle amical, professionnel, etc. Et en revanche, la vraie transparence, c'est-à-dire celle d'État, qui pourtant doit être, là encore, est un fondement de nos sociétés démocratiques, celle-là, malheureusement, elle est encore à chercher, quoi. La transparence d'État, contre ce qui se passe, toutes les affaires politico-financières, on se rend compte qu'il y a une certaine transparence, de prétexte, mais que... J'ai un truc à vous lire, hein, si vous voulez, là-dessus.
Allez-y, allez-y.
Eh ben, c'est l'occasion.
Alors, vous suivez les gars derrière leur clavier, là?
Oui, Raoul Sot dit que Phil a une double vie, mais il n'en dira pas plus.
Je vais essayer de parler, exactement, parce que c'est une...
Je dirais de ne rien dire.
Il y a cinq lignes et pas un seul point, donc il faut que j'aille cool, mollo. Alors, un État totalitaire qui parviendrait à se perpétuer instaurerait, donc c'est du conditionnel, hein, instaurer probablement un système de pensée schizophrénique dans lequel les lois du sens commun demeureraient valables dans la vie quotidienne et dans certaines sciences exactes, mais dont politiciens, historiens et sociologues pourraient ne tenir aucun compte. Donc il définit donc un État totalitaire. Et donc il décrit complètement ce qui se passe aujourd'hui dans la France d'Eric Woerth, quoi. Enfin, le fait que les lois du sens commun demeuraient valables dans la vie quotidienne pour tout le monde, mais dont les hommes politiques pourraient s'affranchir quand ils veulent. Pour moi, donc, on est déjà en plein dedans, quoi. Donc,
oui, mais enfin, on va pas dire que la France est une société totalitaire non plus.
Il y a des sources dans le chat.
C'est George Orwell, qui a écrit ça dans les années 40. Le bouquin, c'est de la Décence ordinaire, de Bruce Begou, édition Alia. Ça coûte 6,10€. Et c'est un peu un... résumé de la pensée politique d'Orwell sur cet aspect-là, justement, comment les gens arrivent à avoir à accepter ou pas l'autoritarisme, l'invasion de leur vie privée. Et c'est assez philosophique, mais cette phrase-là, je trouve qu'elle résonne énormément à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui.
Quoi. Enfin, bon, je suis pas non plus totalement en désaccord avec ce que vous dites, mais je pense, enfin, c'est mon avis, pour arriver à une société totalitaire telle qu'elle a pu être décrite dans 1984 et dans Le Meilleur des Mondes, on n'y arrivera jamais, ça c'est clair.
Je pense que, parce qu'il y a plein de choses, vas-y, finis là.
Il faudrait quand même arriver à pas mal d'événements. Dans 1984 d'ailleurs, si je me trompe pas, j'ai lu, mais c'était il y a longtemps, il s'est passé quand même un truc atomique, enfin il y a quand même une guerre atomique avant qu'on arrive à...
Non, il y a juste la guerre partout.
D'accord, oui, c'est ça.
Il y a deux grands camps, comme je représente un peu le camp marxiste et le camp capitaliste. Et effectivement, c'est plus une critique du marxisme d'ailleurs, hein, du stalinisme, que du totalitarisme de droite, fascisme, etc. Hein. C'est plus contre l'Union soviétique que Hitler. Hein. Dans ce qu'il décrit,
oui.
Comment le pouvoir autoritaire est décrit, c'est plus une critique effectivement pour le petit part du peuple que...
Bon, là je vais un peu déborder sur les questions de fin, mais comment vous, en gros, vous imaginez le futur?
Avant d'enchaîner, j'ai une question sur qui justement va amener sur le futur très vite.
Imaginez le futur.
On a vu ce que la CNIL était capable de faire face à Dopi.
Ah super. Super boulot.
Est-ce que la CNIL est encore crédible? Parce que jusqu'à présent elle était citée comme le garde-fou face aux problèmes de vie privée, etc.
Enfin, elle est toujours citée par le garde-fou, mais c'est un peu les Big Brother Awards qui salissent cette réputation. C'est
vrai. Oui, non, mais toujours est-il.
Pas gentil du tout.
Non. Non, mais toujours est-il que la CNIL, qu'on en fait quoi? On la ferme en disant c'est pas la peine. Parce qu'à l'heure actuelle, vu ce qu'elle a servi, j'ai envie de dire qu'on paye presque des gens pour rien, les pauvres. Hein. Ils se battent contre des gens.
Il y a quand même des experts, la CNIL.
Et je pense que c'est le plus difficile quand même à continuer à faire. Critiquer la CNIL aujourd'hui. Critiquer la CNIL aujourd'hui quand on s'estime expert ou fin connaisseur de ces questions-là, c'est casse-gueule parce que forcément en face, vous avez des gens aussi compétents que vous. Et qui peuvent vous démontrer avec de très bons arguments que effectivement ce serait encore pire sans que la CNIL soit si la CNIL n'était pas là. Et je pense qu'avoir réussi quelque part à être clair avec moi-même en expliquant justement, je vais évidemment vachement loin, mais je pense qu'on ne pourrait pas aujourd'hui accepter autant de choses contraires à la Constitution, contraires aux droits fondamentaux dans l'aspect surveillance des gens. On ne pourrait pas accepter si la CNIL n'était pas là. Je pense que ça sert justement de pansement.
De dire en gros, globalement, les sages disent oui, allez-y.
Non, je ne pense pas qu'ils disent forcément oui, allez-y, mais ils peuvent dire ça. On est passé par la CNIL, on l'a consulté. Voilà. Bon, on n'a rien fait de ce qu'ils ont dit, mais on les a consultés. Ils sont là pour ça. Votre vie privée est garantie.
Voilà. Tous les ministres, ministres là que j'ai dans le nez depuis 4 ans, c'est l'éducation. Ça fait 4 ans qu'ils ont lancé un fichier des écoles. Qui est accessible au niveau académique, au niveau de chaque département, donc c'est pas centralisé en tant que tel. En même temps, ils ont créé une base nationale des identifiants des élèves, donc chaque élève, chaque enfant à 3 ans a un ID unique, ce qui était interdit pour les mineurs. Ma fille, elle a 19 ans, elle n'a pas encore de numéro de sécu, parce qu'elle n'est pas encore assez travaillée, donc elle n'a pas encore de numéro de sécu à 19 ans, et on est en train de créer un système qui en crée un pour les enfants à 3 ans, donc qui garderont pendant 35 ans. Hein. Voilà. Donc ça a été créé en douce, en catimini, en France, pas en Chine. Et il se trouve qu'il y a, en mois de juillet, le Conseil d'État, qui est donc la plus haute autorité administrative, a annulé la plupart des textes réglementaires sur ces fichiers-là. Et ça fait 4 ans que des petits branleurs comme nous, effectivement, on lève le doigt en disant « Attention, il y a un truc qui n'est pas clair. » Et à chaque fois qu'on parle de bas élèves, donc le nom du fichier, on nous dit, la CNIL est passée dessus. À chaque fois, c'est toujours pareil. La CNIL, ça devient la caution morale en disant, mais ne vous inquiétez pas, c'était contrôlé par la CNIL. Une fois sur 10, ça n'a jamais été contrôlé, ça a juste été visé. Donc, il y a différentes étapes de contrôle de la CNIL. Et c'est très rare qu'elle autorise ou pas un système.
Voilà.
Des fois, elle ne fait juste que passer, que le regarde. Elle enregistre, elle met un tampon. Et c'est très rare que la CNIL doive autoriser l'histoire du fichier Edwige, c'est pareil. Les fichiers policiers, de souveraineté, la CNIL n'a plus à dire oui ou non. Elle a juste à dire oui mais. Ouais. Et le mais, c'est au choix.
C'est ça.
Donc, voilà, le garde-fou, mon cul.
Alors, normalement,
c'est l'avis de la CNIL, c'est pas la décision. Quoi.
Ouais, mais du coup, si la CNIL n'est pas capable de faire son boulot, on est censé passer un cran au-dessus avec le Conseil constitutionnel, normalement. Même si le Conseil constitutionnel, vu qu'il est basé sur la Constitution et que la vie privée dans la Constitution, c'est une notion qui est peut-être un peu plus floue que ce qui avait été défini dans la CNIL, mais on peut imaginer que c'est un deuxième garde-fou.
Bah, l'autre problème de la vie privée, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, on est censé avoir deux garde-fous, avec donc l'autorité la plus haute étant le Conseil constitutionnel.
Avant le Conseil constitutionnel, il y a les tribunaux.
Oui.
La CNIL a porté plainte à 10 ou 15 fois en 30 ans. C'est-à-dire que la CNIL, des fois, reproche qu'on la critique parce qu'elle ne va pas assez vite. Mais sans déconner, il y a énormément d'affaires où elle aurait dû, par exemple sur Google Street, là. Les voitures Google qui circulent et qui captent des données Wi-Fi, c'est interdit, pataquès, machin. La CNIL dit, attention, on contrôle tout. Donnez-nous vos ordinateurs, ils font une descente chez Google France.
La CNIL a fait affiner une Google Car ce matin.
Voilà, ils ont soi-disant intercepté une voiture Google Car, alors qu'en fait c'était prévu, il y a un rendez-vous avec Google, c'était prévu, alors qu'ils ont fait croire que c'était un...
Ils ont intercepté,
machin. Ouais,
mais enfin, quand même, on ne peut pas dire que la CNIL se repose sur ses lauriers.
Non, mais la CNIL, elle fait ce qu'elle peut, voilà. C'est le seul truc que je peux arriver à dire pour M. Turc. Je sais, M. Turc, je vous fais ce que vous pouvez, parce que vous avez un budget riquiqui, des procédures énormes à respecter. Vous devez vous aussi rentrer dans les clous parce que la CNIL, quand elle fait des contrôles, elle doit rester hyper rigoureuse. Sinon, c'est nul et non avenu. Donc, hein.
Alors, en même temps,
mais en même temps, des fois, je regrette.
La CNIL, elle n'a pas le droit, elle doit pas avoir ses propres lois. Faut qu'on reste logique.
Mais des fois, je regrette que Turc n'ait pas, même politiquement, lancé le dossier au juge. C'est-à-dire, transmettre un dossier au parquet. Mais
en disant bonjour, il y a une société qui vient prendre des photos dans la rue, c'est pas normal. Effectivement, non, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, pour nous, ça nous paraît logique, gros geek qu'on est.
D'une part, politiquement, ça permettrait à la CNIL de dire écoutez, nous, moi je fais mon métier, je contrôle. Je constate une irrégularité. Mon métier, c'est pas de juger, donc je transmets au parquet. Donc j'éteins. Et puis, donc ça veut dire que les tribunaux même n'ont jamais été assez sollicités pour que la CNIL puisse dire, écoutez, excusez-nous, nous on fait un super boulot et en plus, regardez, les tribunaux nous donnent raison. Ils n'ont pas assez porté plainte là-dessus. Ensuite, tu parles du Conseil Constit, donc qui est, ou même le Conseil d'État, hein, le Conseil d'État qui est donc l'administratif, c'est le plus top. Bah, il faut juste qu'il y ait des procédures qui permettent aux citoyens de porter plainte. Le conseil constitutionnel, c'est possible que depuis 3 mois, quoi.
Effectivement.
Ça, depuis 58, on a un conseil constitutionnel qui est là, on ne peut pas porter plainte, on ne peut pas saisir le conseil en tant que citoyen. Mmh. La même, c'est le cas depuis le début.
Enfin bon, le conseil constitutionnel, enfin, je trouve quand même que depuis maintenant 3 mois, je trouve qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de boulot qu'avant. Hein. Ils sont beaucoup, beaucoup plus sévères qu'avant.
Ah ben, c'est, en même temps, ça fait 3 mois que on peut, les citoyens peuvent
saisir. Non, mais il y a les députés avec Hadopi, par exemple. Hein. Ça fait depuis quand même une petite année, disons, que le conseil constitutionnel devient de plus en plus, enfin, plus sévère, je trouve.
En même temps, t'as vu les lois qui passent?
Oui, bah oui, voilà, c'est aussi rapport de cause à effet.
Le problème, c'est aussi qui les nomme, comment ils sont nommés, c'est quoi leur CV. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a Chirac, Giscard, Debré, et puis c'est sur cette assemblée-là dont on peut espérer qu'ils vont contrer les dérives totalitaires de Sarkozy, moi, ça me fait rigoler, quoi. C'est, on dirait que le gros guignol, quoi, avec le guignol et puis les gendarmes à côté, mais il est tapé dessus, machin. Excuse-moi, mais c'est
aussi... Enfin, on va pas dire que Jacouille la Fripouille est le premier supporter de Saint-Nicolas. Hein.
Non, les conseils constitutionnels, c'est une arme politique dans le cadre d'un débat politique qui est permanent en France. Et oui, il y a un jour où on les utilise pour taper dessus, et un jour, ils ferment leur gueule, quoi. Même du temps de Roland Dumas, quand il était président, en face, il y avait la droite. Excuse-moi, mais il s'est couché plusieurs fois. Et il dit, pourquoi il se couche? Et pourtant, il s'est couché. C'est quelqu'un intelligent, quand même. Mais bon, je pense qu'il y a des choses qui font que ces gens-là se couchent, voilà.
Jemmer dit Sarko sera au Conseil constitutionnel à la fin de ses mandats, ses mandats.
Sauf s'il a une crise cardiaque avant. Hein,
D'ailleurs, s'il pouvait courir un petit peu plus vite, ça serait pas mal.
D'ailleurs, l'année prochaine, 29 sur 24, kill the president.
C'est ça. Et le problème, c'est que tu vois, là, on vient d'être capté par 25 satellites US. Et on va avoir le FBI qui va débarquer dans le supercafé. On va se retrouver à Guantanamo comme des cons. On se tiendra chaud, les gars. Bon.
Diaspora est un projet fait par plusieurs étudiants américains qui a pour but de construire une alternative à Facebook qui soit libre, non lucratif et très protectrice de la vie privée.
Alors rappelons quand même que Facebook a été créé par des étudiants aux USA.
Oui, non, mais là.
Je veux pas dire.
Non, mais là, il faut savoir.
Et qui au début disait. C'est Google qui disait Don't Be Evil. Mais bon, au début, ils avaient.
Non, mais là, c'est autre chose. C'est vraiment construire une alternative à Facebook libre, etc. Ils vivent grâce aux dons. Ils ont reçu 200 000 euros de dons. Mark Zuckerberg a aussi investi à l'intérieur. Bon, on peut voir un petit double jeu marketing de sa part. Est-ce que vous croyez globalement dans ce projet? Est-ce que vous pensez que Diaspora, si elle est réalisée, si c'est une alternative crédible, sera une très bonne solution pour les consommateurs?
J'ai pas écouté du tout, excuse-moi. C'est quoi Diaspora?
Alors Diaspora est un projet fait par plusieurs étudiants américains qui sera lancé le 15 septembre et qui a pour but de construire une alternative à Facebook, mais qui soit libre dans le code, qui soit non lucrative, très protectrice de la vie privée et décentralisée. C'est-à-dire que, en gros, au lieu que tout soit sur un même serveur, vous l'installiez plus ou moins sur un même serveur ou que vous fassiez... Enfin bref, ce sera pas tout sur un même serveur. Ça ne vit uniquement grâce aux dons. Est-ce que vous pensez que si ça se révèle comme une bonne alternative à Facebook, est-ce que ça peut être une bonne solution pour le consommateur?
Pourquoi le consommateur?
Non, le consommateur ou l'internaute.
Pour le, oui, consommateur, le
citoyen.
Le consommateur, en l'occurrence, dans le cas de Facebook.
L'individu, quoi, la personne. Bah oui, non, bien sûr. Enfin, je veux dire, sur le papier, c'est comme si tu me demandais si... C'est pour la peine de mort.
Non mais est-ce que non mais.
Mais évidemment, je veux dire tel que tu décris le projet des étudiants.
Ça a l'air bien.
Super étudiants donc pas.
Non mais je veux dire est-ce qu'il y a un problème de la part même du principe de réseau social qui est qu'on révèle trop facilement sa vie privée.
Je refuse d'être contre parce que il faut être contre la technologie. Non moi sur Facebook j'ai un pseudo.
Attention, on va vous le craquer.
Contexte pour chat.
Et j'utilise ça avec avec ma méthode, avec mes moyens, et justement, je le pervertis à ma sauce, quoi. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Comprendre que Facebook, ça peut se pervertir, et chacun peut le faire à sa sauce.
Ce qui est un petit peu dérangeant, quand même, dans ce que vous dites.
Oui, vas-y. Facebook, rapidement. Lionel M qui dit, est-ce que vous pensez que les gens en dehors de la technosphère se posent ces questions? Les gens adorent Facebook et se posent pas trop la question.
Eh ben, il y a bien un jour, il faudra qu'ils se posent la question. Bon, on va les laisser naviguer en eau trouble, et puis un jour, ils couleront, et puis un jour, ils seront...
Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'éduquer ces gens vis-à-vis de ça?
Bah la CNIL.
Pour l'instant, à part la CNIL. Parce que pour l'instant,
l'éducation, elle se fait par la découverte, par les bouquins, par les gens qui veulent nous écouter aujourd'hui. Part ils découvrent.
Ah non, sauf pour la loi d'Opi, ça se fait via des flyers sur les autoroutes.
Les gens à m'écouter parce que moi, je suis convaincu que c'est important ce que je dis. Mais oui, ce qu'on fait au Big Brother House, par exemple, ça fait partie de l'éducation, de la propagation, des idées, de faire prendre conscience aux gens que la technologie, elle n'est pas neutre en tant que telle. Et c'est pas que l'usage qu'ils ont fait, mais c'est aussi Facebook existe. Des fois, comme tout à l'heure, il disait, au collège, personne peut ne pas y être parce que ça se fait pas. Donc tout ça, il faut apprivoiser, il faut l'utiliser, il faut se prendre des bananes, il faut se prendre des baffes, et puis un jour. Eh ben on se rend compte que finalement c'est pas si utile que ça et on peut l'utiliser différemment. Et finalement, je sais pas donner mon nom et finalement je donne que mon prénom et puis je trouve un pseudo pour mon nom, tu vois. Voilà, les gens ils vont changer quoi.
Bah d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle mode sur Facebook, c'était de changer son nom de famille en mettant n'importe quoi.
Non, alors.
Je sais pas d'où ça vient ce débit. J'en ai vu quelques-uns dans ma famille effectivement qui ont mis ça comme.
J'avais un ami qui s'appelait Ronchalot, il s'est renommé Nonchalant.
Voilà, oui, enfin avec des jeux de mots à la con, effectivement, j'en ai vu quelques-uns qui faisaient ça.
Mais
est-ce que c'est créatrice de conscience?
Bien sûr. En plus, ouais.
Et puis, non, je veux dire, attends, au collège, à l'école, au boulot, c'est vachement rare qu'on s'appelle Lionel, Stéphane, Alexandre. On a chacun des petits surnoms. Pourquoi, sur le net, il faudrait qu'on affiche tout, quoi?
Voilà. Bah, justement, c'est la volonté de certains politiques.
D'un point de vue pratique, ça peut être différent dans le sens où on a probablement plusieurs réseaux d'amis. Oui. Puisqu'on n'a pas forcément le même surnom. Il y a deux questions. Premièrement, sur le chat, on répète vos propos, pervertir le système. C'est vrai que quand on entend votre vocabulaire pervertir, c'est vrai que ça fait un peu, non mais ça peut faire un peu peur à l'utilisateur lambda quand même.
Quoi de pervertir le système?
Oui.
Si on est pervers sur Internet en général, quand on entend les ministres, ça sent pas bon, ça
système.
Sent la
pédophilie. Ouais, mais
là on va quasiment vous prendre pour un anarchiste. Hein.
Ah bah j'en suis un.
Ceci explique cela.
La façon du système, on a chacun envie de le faire. Enfin, je sais pas, foutre le bordel.
On est tous anarchistes pour nous-mêmes.
Foutre le bordel, ça veut dire quoi?
C'est clair.
Si c'est pas pervertir le système. Voilà. Même si c'est au niveau de l'école, au niveau de, je sais pas, de l'épicier qui vous fait chier, la vieille dans le métro, pervertir le système. Chacun a envie de foutre un peu le boxon, quoi. Bon, ben voilà, on a tous, on a chacun une graine d'anarchiste, quoi, bordel.
Alors un peu de... Vas-y.
Toujours sur le côté, pour revenir tout à l'heure, vous disiez que chacun devait se prendre un peu à un gadin et apprendre de ses erreurs. Est-ce que finalement, c'est pas juste que la technologie est tellement jeune, c'est donc, on va dire, que ça soit la surveillance, que ça soit Facebook, que ça soit tout ce qui pourrait mettre potentiellement la vie privée en danger et tout ce qui la met aussi. Est-ce que c'est pas juste que c'est la société en entier qui doit se prendre un sacré gadin pour avancer? Ou est-ce que si la société, ça marcherait qu'individuellement en fait? C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que c'est la société dans son ensemble ou est-ce que c'est tous les individus qui doivent faire eux-mêmes l'expérience? En gros, est-ce qu'il faut être optimiste et se dire que la société se mettra à changer parce qu'on va se prendre un gadin
idéaliste en... Je crois plus à l'individu qui va effectivement, par ses réflexions, ses gadins, faire avancer bon an mal an une société ou faire changer la société, plutôt que la société qui est un concept un peu abstrait, quoi, genre la société qui a un grand S, est-ce que...
Les grandes guerres
ont toujours fait changer les sociétés. Est-ce qu'il faut continuer à faire la guerre pour que les gens se rendent compte que la vie elle est pas facile et tout ça, tu vois, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une société se prend des gadins, tu
vois? Bah, il pourrait y avoir, je sais pas, une crise d'identité, un président qui se fasse choper par ses propres caméras de sécurité. Non, ça, non, remarquez, en même temps, il y aurait une jolie censure
non,
derrière.
Mais ça peut être, ouais, mais la censure de Kennedy, par exemple, ça a pu faire créer un électrochoc en Amérique, qui a pu créer des choses, qui a pu créer un petit peu tout ce qui s'est passé après, avec les droits civiques, avec nos propres événements 68, tu vois. Mais je crois plus tout simplement au fait que les individus dans leur coin, il faut qu'ils jugent par eux-mêmes et qu'effectivement qu'ils touchent le feu, qu'ils jouent avec les choses interdites pour finalement se rendre compte que est-ce que c'est leur voix, est-ce que c'est pas leur voix. Et c'est ça qui fait avancer les peuples. C'est pas forcément qu'il y ait des événements institutionnels, politiques, qui font que la société va changer radicalement, des attentats, des trucs comme ça. Donc ouais, je pense que...
Et sinon, je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais en Angleterre, il y a une grande mode qui dure depuis maintenant 10 ans. Mm-hmm. C'est le principe des whistleblowers.
Bien sûr, ouais.
Je vais expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, et ceux qui nous écoutent aussi, c'est le principe que chaque personne ait les yeux et les oreilles de l'autorité. En gros, c'est-à-dire, en gros, c'est ce qu'on appelle sur Twitter du dénonce day.
Et du voyeurisme.
Sauf que là, c'est du dénonce day quotidien et permanent, où en fait, chacun doit faire ce qu'on appelle en France de la délation.
Mmh. Voilà. La délation est un devoir civique, dixit Frédéric Lefebvre.
Voilà. Donc justement,
et puis on a remis un spécial bâton merdeux il y a 2 ans.
On était super fiers.
Donc justement, ça,
évidemment, il n'est pas venu le chercher.
Hein. Est-ce que, à force d'être habitué, et là ça va être le côté pessimiste, on a fait le côté optimiste en disant que chacun devait se prendre des gadins, mais est-ce que le côté pessimiste, ça ne serait pas que même si on se prend des gadins et que chacun personnellement on fait plus attention à ce qu'on dit d'un point de vue vie privée sur Internet, est-ce que finalement on risque pas d'être la cible de la surveillance de l'autre? Est-ce que l'enfer finalement et la perte de la vie privée, ça ne serait pas l'autre, son voisin?
Mais dans le temps, dans les petits villages, c'était toujours
surtout,
comme ça.
Surtout entre 30 et 45, dans la partie nord de la France.
Ouais, mais
pas que remarquer, il y avait la partie sud aussi.
Dans la délation, et tout le monde pense à... Tout le monde pense à Vichy, etc. Mais la République de Venise, bon, je ne suis pas un historien, tout ça, bon, j'ai lu des trucs là-dessus, ça m'a assez interloqué. Et tu vas à Venise et il y a encore dans certains murs des bouches de pierre qu'on appelait des bouches, donc des, comme des gueules en fait.
Ouais, je déposer des petits papiers.
C'est des bouches de lion, tu vois. Ouais. Et donc c'est effectivement comme une fontaine, sauf que c'est haut comme ça, et tu fous des papiers dedans. Et à l'époque, évidemment, tu peux dire oui, c'est pour dénoncer.
C'est des corbeaux en fait, c'est ça.
Mais à l'époque, la République de Venise était gérée de manière. D'ailleurs, quelque part, ça peut être une idée politique reproduire en Europe. À l'époque, les juges étaient désignés au hasard, comme les jurés. C'est-à-dire qu'en fait, chaque citoyen de Venise était amené un jour à juger ses concitoyens.
Alors déjà que les jurés, il y en a certains qui font tout, et j'en connais pas mal qui font tout pour éviter d'être juré, parce que c'est une grosse pression, j'imagine juge. La juge, les gens, ils se font porter pâle, ils se coupent un orteil.
Contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui à la lumière de 2010, ces bouches de pierre qui étaient chargées de recueillir des dénonciations, et c'était pas pour dénoncer le voisin, c'était justement pour que le citoyen dénonce, la personne nommée juge n'exploite pas à outrance son pouvoir, accepte de l'argent, accepte des faveurs.
C'était un truc anti-corruption, quoi.
C'était vraiment un truc anti-corruption, et qui était un peu le contre-pouvoir de cette bizarrerie, aujourd'hui on pourrait dire, des mecs qui n'ont rien demandé mais qui sont élus, quoi. Et donc, toi, comme quoi la délation, attention à ce qu'on dit, tu vois, effectivement, la délation dans une...
Bah, c'est ce que fait Wikileaks, hein, en même temps, on peut dire ça.
Wikileaks recueille, effectivement, bah nous, quand on...
Il y a l'art et la manière, hein, quand même. Donc,
oui, voilà, c'est ça.
On pourrait faire un débat là-dessus, je pense que leur cause est juste, leur manière est perfectible.
Même très perfectible.
Quand nous, on tous les ans, quand on lance l'édition des Big Brother Awards, effectivement, on demande au public de nous aider, on fait quoi? On fait un appel... à candidature. Donc ça veut dire que les gens nous écrivent en disant voilà, mon maire il a fait ça, mon ministre il a fait ça. Bon, et généralement on est tombé peut-être en 10 ans, 2-3 fois sur les cas clairement où c'est le mec qui dénonce son patron ou son collègue de travail ou son voisin qui dénonce pour.
Et auquel cas vous.
Auquel cas, on fait rien évidemment.
Donc Lionel M demande, il y a de la bonne délation et de la mauvaise.
Mais la bonne et la mauvaise, ben. Bah,
le problème, c'est qu'on sait souvent qu'après coup.
C'est la morale, la bonne et la mauvaise, ça dépend si t'es nazi ou juif.
Après, ça dépend.
C'est pas faux.
Voilà, après, c'est tout est relatif. Bah, c'est vrai qu'on pourrait relier le coup de la délation avec l'affaire Bettencourt, parce qu'au final, c'est ni plus ni moins que des écoutes téléphoniques. Mais si, c'est le majordome.
Je n'ai pas suivi ce genre de choses.
La délation, c'est un peu le fait un peu mal vu. Et la dénonciation, ou comment dire. Il n'y a pas un mot qui...
Après, ça dépend de qui on dénonce. Après, ça dépend de qui on dénonce. Parce qu'on peut dénoncer les petits, on peut dénoncer les grands, mais c'est pour...
On peut dénoncer une injustice ou on peut dénoncer son voisin.
Oui, mais on peut dénoncer un vol, comme on peut dire qu'un vol, c'est une injustice aussi. Ben un vol dans une pomme sur un étalage.
C'est une injustice. Il faut savoir si c'est ta morale ou pas. C'est-à-dire, par exemple, si c'est... Si c'est sur un monoprix, par exemple, où ils ont prévu quelque part d'avoir... Après, ce que je vais dire, attention, n'est pas politiquement correct, je préviens. Ne me bâchez pas pour ça. Mais imaginons que ce soit un petit épicier du coin, d'accord ? Un lab qui fait des heures de folie, etc. D'accord ? Parce que j'en ai quelques-uns dans mon quartier. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il ouvre aussi tard. C'est pas ça. Oui, je sais. je sais. Mais le truc, c'est qu'imaginons qu'il se fasse voler une pomme. Voilà. On va partir sur un cas d'école. Hein. C'est Monoprix qui se fait voler une pomme. Où ils se font de toute façon des marges suffisamment grandes. Où ils ont un budget vol, les mecs, hein, quand même. Hein. C'est aussi simple que ça.
Monoprix fera quand même des poursuites alors que l'épicier non.
Oui, non mais toujours est-il, imaginons que toi tu sois témoin de ça, d'accord ? Est-ce que tu vas changer ton attitude vis-à-vis de ça ?
Non, pas forcément, mais c'est vrai que là encore c'est une question de morale. Et la morale, c'est toujours l'éternelle question de débat.
Voilà, et la morale c'est subjectif. Donc du coup, la dénonciation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est subjectif.
Bah, je pense que pour Frédéric Lefebvre.
Pour faire simple, je vais encore gagner un point Baldwin, mais on les collectionne depuis ce matin.
C'est ça un va faire le 8e.
En fait, hein. Enfin, le défi, c'est justement, sache que ce qui est marrant, c'est que quand il y avait la guerre en Irak et tout, et même en Afghanistan, on disait c'est terroristes qui attaquent les troupes, etc.
C'est des terroristes.
Résistants maintenant étaient à l'époque appelés par des nazis des terroristes.
Et bam, on devrait faire un jingle point Goldwyn.
Je pense qu'il nous faut vraiment un jingle point Goldwyn.
Branchez-vous sur France 24 et analysez un petit peu comment les gens sont dénommés, donc les rebelles, les insurgés,
les gros méchants.
On ne sait plus qui est qui, effectivement, en fonction de qui domine l'autre. Voilà.
C'est clair. L'histoire étant toujours écrite par les gagnants.
Question un peu technique. Vous savez, alors sur Facebook, quand vous allez définir vos paramètres de confidentialité, vous pouvez choisir entre plusieurs options prédéfinies. Vous pouvez personnaliser votre option, mais il y a des options prédéfinies.
C'est pour brouiller les pistes, quoi. Ça te saoule de cocher tous ces boutons, c'est fait exprès pour te noyer.
T'as l'impression de répondre à un sondage.
Il y a un truc que je comprends pas. C'est il y a les options recommandées par Facebook. Les options recommandées par Facebook, c'est mes statuts, photos et publications, visibles par tout le monde. Biographie, citation, visibles par tout le monde. Famille et relations, visibles par tout le monde.
Photos et vidéos. Recommandées par Facebook, je partage tout et je
pense
à tout le monde.
Non, mais attends.
Il y a des trucs qui ne sont pas ouverts. Mes messages privés.
Photos et vidéos dans lesquelles je suis identifié, amis et leurs amis. Options politiques et religieuses, amis et leurs amis. Date de naissance, amis et leurs amis. Et enfin, commenter mes publications, lieu dans lesquels j'indique me trouver, coordonnées, amis seulement. Alors, comme on peut le voir, il y a pas mal de publications qui sont recommandées comme étant visibles par tout le monde. Mais moi, je me pose la question très simple. Quel intérêt Facebook a de demander à ce que ce soit visible par tout le monde ? Parce que Facebook, que les infos soient publiques ou privées, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils font autant de pubs et ils font des pubs autant ciblées. Que d'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai reçu un mail récemment sur ma boîte, sur ma boîte qui n'était même pas ma boîte Gmail à l'époque. Si c'était ma boîte Gmail.
C'était la boîte Hotmail.
Boîte Gmail. Et j'avais reçu un mail d'une dame qui, en l'occurrence, était grosse et juive. Bon. Voilà, mais elle était même pas sur Gmail, elle était je crois sur une adresse américaine, et globalement elle écrivait un truc qui n'avait rien à voir ni avec sa corpulence ni avec sa religion, et qu'est-ce que je trouve ? Des pubs pour Voyage en Israël et Régime. Donc c'est un peu la même chose avec Facebook, c'est-à-dire que tu sois ami ou pas avec eux, de toute façon on pourra recouper tes données
Le mail que t'appelles, ça s'appelle un spam.
Non.
Je peux juste dire quelque chose. Non, c'est un peu plus long. Le fait que ce soit ouvert ou pas au public, Facebook s'en fout pas parce que si c'est ouvert au public, n'importe qui tombe sur ta page va aussi avoir des pubs sur le côté. Alors que si c'est fermé, il n'y a pas de pub sur le côté, il me semble. Il y a juste marqué.
Ouais, mais pour le ami et leurs amis par exemple. Pas sûr.
Il y aura des pubs qui seront basées sur son profil à lui. tu te doutes bien que les pubs seront basées sur le profil de la personne qui te consulte.
Mais il me semble que sur, quand, tu n'es pas ami avec la personne, la page est vraiment au minimum.
Ouais, mais ça, ouais, non, mais ça, ça change, de toute façon, ça change pas grand chose pour Facebook. Quel est, non, mais là, je vous pose la question, à votre avis, quel est l'intérêt pour Facebook de laisser certaines informations publiques, alors que pour eux, ça ne change strictement rien sur le ciblage des publicités?
Bah, je crois que c'est pas sûr ce que tu dis, c'est sans doute aussi pour. Si, je pense que ça va pouvoir changer la manière dont les gens affichent les pubs et les voient, et la manière dont eux peuvent ou pas afficher. Je pense que c'est. Ton présupposé en disant de toute façon ils ont toutes les infos, c'est pas sûr qu'ils aient toutes les infos aussi facilement. Voilà, je pense que c'est une manière pour eux de. Et puis c'est aussi une manière pour eux de dire qu'ils font attention à leurs abonnés et qu'ils leur recommandent certains trucs.
Non, ou alors peut-être, on peut dire que
c'est
si...
C'est citoyen aussi, Facebook.
Oui, mais à la limite... non, mais attends, en même temps, j'ai entendu... J'ai lu quand même un... Enfin, j'ai lu un livre. J'ai lu des extraits de livres qui n'étaient pas spécialement appréciés par Facebook. C'était le livre... comment on appelle ça? C'était les millionnaires par hasard. Enfin, c'était un truc dans... Milliardaire par hasard. Le fameux site qui va être adapté en film en octobre, donc sous le nom de The Social Network. Et donc, en gros, qui disait que Mark Zuckerberg, en fait, est un peu un allumé puisqu'il croit totalement en une société transparente. Alors, peut-être que c'est faux. Peut-être qu'il ment complètement. Mais, est-ce que son but final, son but machiavélique et diabolique ne serait pas de faire une société un peu plus ouverte? Est-ce que c'est complètement con de dire ça et c'est complètement naïf et candide, ou est-ce qu'on peut éventuellement croire qu'il croit vraiment à ce genre de choses?
C'est pas moi qu'il faut que tu poses la question.
Oui, bah,
je te regarde. Tu me regardes.
C'est compliqué comme sujet.
Il a pas écouté. C'est le minimum de la psychologie.
Je pense
tu veux que les gens t'écoutent, tu les regardes.
Non, mais j'ai pas répondu.
Faut qu'il apprenne à faire des émissions. C'est pas grave.
J'ai pas réponse à tout, non, j'ai pas. Non, c'est ton idée, hein, j'ai pas. Ça me va, hein, ça me choque pas ce que tu dis.
Risque-t-on d'aller dans un monde où les sociétés type Google connaîtront tellement de choses sur soi? Alors ça, c'est Eric May qui l'a dit.
Qu'ils seront capables de faire une intelligence artificielle qui te remplacera après ta mort. Non, c'est un délire geek.
Qu'il sera impossible de ne pas cliquer sur les pubs tellement elles seront intéressantes. Globalement, ce que Eric May t'a dit, c'est nous savons.
Pour un moment, faut quand même que tu fasses ce que t'avais prévu de faire.
Toujours ne pas cliquer sur la pub. Hein.
Ouais, mais entre temps, il y a l'intermédiaire Google qui se fait un masse de fric.
Mais t'oublies le blocage psychologique où c'est une pub, t'as pas envie de cliquer déjà au départ.
Le blocage psychologique de j'ai pas de pognon.
Oui, non mais attends, de toute façon ils calculent.
Tu es obligé d'acheter, que t'as ton curseur qui va tout seul sur acheter, qu'il y a un petit bras qui sort, qui lit ta carte bleue avec la webcam, et que paf, ça
on
fait ton achat.
Tellement bien que vous serez obligé de cliquer.
Non mais c'est quelque part, franchement, là sur le côté pub, moi ça me dérange moyennement. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi je dis jamais.
Mais que les pubs soient ciblées en soi, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui pose problème? C'est plutôt la collection d'informations intéressantes, enfin intéressantes pour les publicitaires
un des autres problèmes, c'est en fait on est fiché dans plein de domaines. On est fiché avec la carte Navigo, on est fiché avec le domaine bancaire, on est fiché avec le domaine médical. Mais le problème
c'est pas donc qu'on ait des pubs intéressantes, ça c'est plutôt le côté le moins négatif, on va dire.
Non, mais je veux dire par exemple, non mais ça c'est un autre problème, le fichage par exemple. On est fiché, imaginons, du côté médical et du côté bancaire. Et le problème, ce serait le recoupement des données, c'est-à-dire un fichier universel où en gros le banquier te refuserait un crédit parce qu'il sait que t'as un cancer.
Ou alors que le banquier te refuse un crédit parce qu'il t'a vu bourré sur Facebook.
Aussi.
C'est pas faux, c'est dit.
C'est vrai que fondamentalement, ce qui craint, c'est ce qu'il y a derrière. C'est un peu l'intelligence des bases, c'est-à-dire l'intelligence du profiling. Le simple fait de savoir que ça, c'est à mon insu qu'on le récolte et qu'on monte un profil sur ma gueule et puis que papa. Et puis plus que j'y vais, plus ça s'enrichit. Mais en même temps, je crois pas non plus à la pub intéressante. La pub, à mon avis, elle est intéressante que pour le marchand.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas dit que c'était un point positif, ouais. J'ai dit que c'était le moins négatif. À la limite, que la pub soit intéressante, tant qu'à faire, c'est pas trop gênant. C'est plutôt le fait qu'il collecte les données qui est gênant, quoi. C'est
intéressant, c'est.
Faut pas confondre cause et conséquence.
Avoir de l'intérêt pour quelque chose. Déjà, c'est présomptueux pour une technique d'estimer qu'une pub peut être intéressante pour une personne.
Une pub peut être plus ciblée, on va dire.
Voilà, c'est peut-être ça le terme. Oui. Mais encore une fois, la cible, c'est un terme serveur, quoi. C'est un terme entreprise. La personne ne s'estime jamais comme une cible. À la limite, elle s'estime.
Limite, ça fait un peu stressé.
Voilà.
C'est un terme qui est un peu anxiogène, donc, quand même.
Une pub ciblée, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée pour l'entreprise. Et pas pour le consommateur.
Oui,
qui arrivera, qui peut-être aura son produit plus rapidement, mais un jour il le trouvera. Si vraiment le produit, c'est ça qui l'intéresse, il le trouvera le produit. Tu vois.
Dans ce cas-là, j'ai un service que j'utilise qui est peut-être plus tendancieux, entre guillemets, là-dessus. C'est-à-dire que j'ai un truc, un random du web, en fait, un peu comme ça, le roulette, mais avec des sites web. Et en fait, ça s'appelle Stumble, je ne sais pas si vous connaissez. Mais en gros, ça, c'est le genre de truc qui a passé des nuits blanches. C'est un bouton où, en fait, ça va chercher une page au hasard.
Ah, mais sur si le je net. Connaissais... le web roulette en 97, non, c'est ça.
Voilà, sauf que là, c'est un peu plus intelligent au sens que j'ai rempli à la base des catégories que j'avais envie de voir. Par exemple, j'avais pas envie de voir des trucs sur la décoration de la maison.
Pourquoi c'est super intéressant?
Oui, peut-être, mais pas pour moi. Et donc, en gros, déjà, je coche quelques cases et ensuite, pour chaque page, je dis si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Et là, ça fait peut-être un an que j'utilise ce truc-là. Et plus ça va, plus ça me donne des pages qui sont intéressantes. Donc, c'est des pages qui ont été fournies par les utilisateurs pour les trois quarts.
C'est bien cette adresse.
Et c'est Stumble. C'est
Stumble Upon.
Ouais.
Nico de P dit que la pub ciblée n'est pas un problème, mais le fichage à destination politique.
Pas fini, si.
Ma question, ah, vas-y.
C'est tenté de me copier. Et donc là, est-ce que en soi cette collecte d'informations, elle pourrait être comment dire, est-ce qu'elle pourrait porter préjudice? Parce que pour moi, ça me semble relativement innocent.
Non, c'est mais comme Google, hein. Comme Google en même temps.
Oui, voilà, mais justement, Google, ça partait à la base d'un, ou Facebook, ça partait d'une bonne idée. C'est devenu plus ou moins pervers.
Mais dès que c'est lié à un cookie, donc à un ordinateur, c'est pas forcément
lié à toi.
C'est lié à un
compte, en fait. C'est lié à un compte.
Lié à un compte. Oui, forcément. Après, il y a des moyens d'anonymiser tout ça. De
faire il suffit que je me connecte pas et que je l'utilise pas. Hein. Jusque-là, c'est aussi simple.
Ah, c'est de toute façon, c'est souvent la réponse qu'on donne. Hein, parce qu'on dit, ouais, Google, machin, Facebook, ils prennent nos données. Et on leur répond,
bah, t'inquiète pas. Si tu n'utilises pas Google, à part taper les adresses à la main, ou utiliser Bing, qui est pas mieux, ou utiliser Yahoo, qui n'existe plus d'ailleurs. Yahoo Search, c'est over. Hein, en fait, c'est marqué Yahoo, mais derrière, c'est Bing.
C'est le moteur Bing.
Non, c'est officiel maintenant. C'est la technologie Bing derrière Yahoo.
C'était Bing qui reprenait les résultats de Yahoo.
Non, c'est Bing et ils utilisent, je crois, la régie publicitaire de Yahoo.
Ils ont fait Bang,
c'est ça.
Exactement.
Yahoo, ils ont bien merdé, mais bon, ça, c'est un autre débat.
Non, mais bon, c'est vrai que en fait, la stratégie de Google, globalement, c'est de faire le maximum de produits qui sont intéressants à faire, c'est-à-dire, par exemple, Gmail, qui est actuellement le meilleur mail sur le marché.
Ça discute encore.
Bon, ça discute, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trouvé encore.
C'est le meilleur mail techniquement, effectivement. C'est le meilleur mail peut-être au niveau de la gratuité par rapport à ce qu'on a comme service.
Avec Facebook. Mais après, qui c'est qui utilise le mail maintenant?
Moi.
Jamais Facebook. C'est ma sœur qui m'oblige. Allez voir la vidéo qu'elle a postée alors qu'elle aurait dû l'envoyer par mail.
Mes enfants et leurs copains, le mail, ils savent même pas ce que c'est, quoi.
Ils s'en servent pour se loguer sur Facebook quand ils ont oublié le mot de passe.
Voilà, mais pour eux, c'est dramatique. Mais bon. Voilà, quoi. C'est vrai que quand tu es sur une application toute la journée, que tu peux chatter et envoyer des mails privés, c'est vrai que tu passes facilement du
protocole.
Alors que Twitter c'était mon mieux.
Alors que nous on passe nos journées à s'enfermer dans une cave.
C'est vrai que nous on utilise beaucoup plus le mail avec la ML, mais bon, attends, le mail de Facebook il est vraiment tout pourri. Non, mais ce que je veux dire par là c'est que Gmail par exemple est un mail qui est très utilisé des utilisateurs, qui est très populaire.
Très utilisé des utilisateurs.
Très utilisé.
J'arrive à
tuer. Et très utilisateur des utilisés, attention. Non, mais Gmail est pour l'instant le meilleur mail sur le marché, donc c'est un. Enfin. Je veux dire, bref, c'est le meilleur mail gratuit sur le marché.
Ça dépend des pays. Hein,
rien n'est gratuit
dans tous les pays. C'est le premier.
Ça n'existe pas la gratuité.
Non, officiellement, on ne paye rien.
À part entre amis.
Ce qui est gratuit, c'est la vente des données personnelles que tu fais. Toi, tu le comptes gratuit. Tu donnes ça gratuitement à Google et c'est ça qui est gratuit.
Mais
leur service, il n'y a pas gratuit.
C'était déjà pareil pour les données de l'avenir du téléphone qui étaient vendues. On était sondés. Les gens regardaient ce qu'on achetait dans les magasins.
Le fichier est vendu.
Ça existait bien avant Internet, ça. Et regardez ce que vous achetiez.
Mais le meilleur mail,
Non, en fait, le meilleur webmail, tu veux dire.
Oui.
Mail sur le web.
Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je Google, sa stratégie. Google, sa stratégie, c'est pas spécialement de faire des produits qui vont rentrer de l'argent. Le truc, c'est d'utiliser, de faire le max de services, de faire plein de petits services que les utilisateurs vont utiliser pour aller dans une sphère Google et donc mettre le plus de données. Par exemple, un des meilleurs exemples, c'est Google Voice. Google
Voice. La Poste.net, c'est pas mal comme service. Oui, c'est vrai que ça, au niveau de la Poste, à mon avis, je pense pas qu'ils collectent trop de données. Tu vois, je pense que c'est pas, y a pas de business.
Attention, la Poste, hein, c'est une entreprise.
Mais encore, on peut pas reprocher à la Poste de vouloir connaître ton adresse.
C'est public. Et puis au pire, c'est le principal actionnaire, c'est l'État. Hein. Bref.
Oui, mais la Poste, c'est public. C'est privatisé.
Bref, Google Voice, c'est un service aux États-Unis qui permet donc d'avoir un numéro pour tous ces numéros. En fait, un numéro universel qui permet de se connecter à son numéro de portable, son numéro de bureau, etc. Et en fait, Google analyse et donc globalement, Google analyse toutes les conversations qui passent par ce numéro. Quand même.
Tu vas me faire croire qu'ils ont une super ferme de serveurs pour écouter les conversations.
Attends, quand même, ils te proposent de faire des retranscriptions de tous tes messages.
Oui, mais tes messages vocaux, mais après dire qu'ils analysent toutes tes conversations quand t'es en ligne en ce moment, ça c'est de l'extrapolation, t'as aucune preuve de ça. Effectivement, ils analysent tes messages vocaux pour te les retranscrire en texte, donc au passage, ils savent ce qu'il y a dans le
message. C'est comme, là encore une fois, on confond ce qui est possible et ce qui est faisable.